RMC, M comme Maïtena, Maïtena Birabin.
Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver tous les jours à partir de 15h sur RMC pour parler de l'actu et rencontrer ceux qui la font. À 15h45, mon ex-patron Rodolphe Belmer, qui a dirigé pendant 12 ans Canal+, aujourd'hui il est au conseil d'administration de Netflix et il vient nous parler des séries. Les séries, ce que nous regardons tous de plus en plus, de leur avenir, du rôle que nous les Français nous pouvons jouer dans cette industrie. Le festival Sériemania qu'il préside, Rodolphe Belmer, ouvre à Lille tout à l'heure. Mais d'abord, un sujet que je qualifierais genre de qui se moque-t-on. Le prix du gazole et de l'essence est au plus haut depuis 4 ans. Des industriels travaillent encore sur une solution plus propre pour le diesel. Oui, vous m'avez bien entendu. Mais moi, je croyais que les énergies fossiles allaient disparaître. Alors, de qui se moque-t-on? Que se passe-t-il avec l'électrique et les autres carburants? Vous avez abandonné la voiture parce qu'elle est devenue vraiment trop chère. Vous roulez à l'huile de colza, c'est illégal mais fonctionnel. Vous ne croyez qu'à l'électrique. Jérôme et moi vous attendons. 3216 et Twitter, hashtag M comme M.
RMC, M comme Maïtena.
Si vous possédez une voiture, sûrement, l'avez-vous constaté, le prix des carburants augmente.
À la pompe, les automobilistes voient les prix s'envoler.
C'est un effet direct de la hausse du pétrole. En un an, une augmentation de pratiquement 20%.
Un baril qui atteint à l'heure actuelle 75$, son niveau le plus haut depuis 2014.
C'est plutôt les taxes qui augmentent plus que le carburant lui-même.
C'est un nouvel impôt déguisé.
Oui, c'est beaucoup d'argent. Sur la période, c'est 50 milliards de revenus supplémentaires pour l'État.
Ça m'énerve.
Et malheureusement, la loi de finances prévoit que ça continue.
Maïtena Birabin.
Alors, on a déjà un débat ici. Alors, je vais vous présenter nos invités. Yves Carra, vous êtes porte-parole de l'Automobile Club et vous n'en revenez pas que je n'ai pas mon permis de conduire ni même une voiture.
Donc, c'est impossible, c'est impossible.
Mais c'est possible. Et c'est pour ça que j'adore les sujets voitures, parce que pour moi, c'est d'un exotisme total. Nicolas Meillant, bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur conseil dans le secteur de l'énergie et du transport. Vous travaillez chez Frost & Sullivan. Alors, Frost & Sullivan, c'est une société de conseil. Vous donnez des conseils de stratégie de croissance. Vous conseillez, par exemple, à vos clients de devenir vert.
On travaille avec des constructeurs ou des équipementiers qui souhaitent développer des voitures électriques et donc on leur dit si quel type de voiture il faudra développer, est-ce qu'on va pouvoir charger cette voiture, est-ce qu'il y aura des bornes de recharge,
ouais.
Quel type de batterie.
Et alors vous leur dites d'y aller ou qu'il faut attendre encore un peu?
Ben là, ce qu'on leur dit, c'est que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, c'est vraiment que le début. Hein. On parle de moins de 2% des ventes de voitures électriques parce qu'aujourd'hui, la voiture électrique, elle est encore trop chère. Et elle fournit pas le même service qu'une voiture normale. Vous partez pas en vacances et faites 500 km avec.
Mais du coup, si vos clients ne se mettent pas à développer des voitures électriques moins chères, qui durent plus longtemps, comment on va faire? C'est le truc qui se mord la queue, cette histoire.
Ben, y a pas ceux qui, c'est pas que eux qui choisissent, en fait. Les pouvoirs publics ont un rôle très important, en fait, pour pouvoir aider à développer les voitures électriques. Et on voit, en fait, quand on sort un peu de France, ce qui vient de temps en temps, on voit que ça se développe, très fortement dans des pays comme la Norvège. Pourquoi? Et ça va pas plaire aux Français, parce que en fait il y a des niveaux de taxation très forts sur les voitures.
Ouais.
Vous achetez une voiture 20, en fait elle coûte 40 parce qu'il y a 20 taxes, et la voiture électrique elle paye pas la taxe donc elle coûte moins cher.
En fait l'électrique, l'hydrogène serait une bonne solution, mais l'électrique c'est surtout un problème de pays riches, parce qu'on a un niveau de vie très élevé dans les pays scandinaves. Moi je reviens de Londres, il n'y a pas une borne électrique dans la ville.
Ouais.
Oui, alors c'est vrai que aujourd'hui, quand on regarde les pays où ça se développe, il y en a trois. En gros, il y a la Norvège, donc eux c'est quand même le.
Mais parce que c'est subventionné par l'État. S'il n'y a pas de taxe à l'achat d'une voiture électrique, forcément.
Si vous voulez, en gros c'est subventionné parce qu'on vous donne une aide,
oui.
Mais aussi donc une carotte, mais aussi il y a un très très gros coup de bâton sur l'autre voiture. Donc ils se vendent très peu de voitures.
S'il y a un très très gros coup de bâton sur l'autre voiture, pardon, hein, mais prenons le principe au départ, on parle bien de la disparition des énergies fossiles ou ça a changé? On nous a dit n'importe quoi, Yves Carra. Il y en a sous le pied, il y a du pétrole, on peut avoir du gasoil jusqu'à la fin des temps?
Alors ça, a priori, non.
Mais alors pourquoi est-ce qu'on s'en occupe pas?
Non, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on veut tous une planète où on ne pollue plus, qui soit la plus verte possible, où il y a le moins de bruit possible, parce que c'est aussi une agression. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Simplement, je crois qu'il y a parfois un temps politique qui n'est pas celui des industriels ou celui de la nature. Ça fait 100 ans qu'on vit sur une société avec une voiture, et c'est très bien, c'est une vraie liberté. Hein. On peut aller vers les gens, les embrasser.
Mais le sujet n'est pas d'abandonner la voiture. Non, le sujet est d'abandonner le carburant.
Oui, mais alors justement, mais on apporte des solutions. Le 15 décembre 2017, donc c'est tout récent, il y a eu une ordonnance qui a fait que maintenant on peut homologuer par exemple des boîtiers pour rouler au super-éthanol. On pouvait le faire avant, mais c'était un petit peu du tout et n'importe quoi. Là, il va y avoir une vraie homologation. Donc ça vient de la betterave, hein, on fait du super-éthanol. On rajoute 15%, pourquoi E85, le super-éthanol? Parce que c'est 85% d'éthanol, 15% d'essence, donc on réduit la part des énergies fossiles.
Oui.
Et puis on produit, si je puis dire, français. Donc c'est une une solution effectivement pour limiter les énergies fossiles, pour peut-être un jour s'en passer totalement, on l'espère.
Mais comment peut-être un jour? Excusez-moi, mais pardon.
Non, mais
pourquoi vous me dites peut-être un jour? Ça fait 30 ans qu'on nous dit que ça va s'arrêter.
Il y a 30 ans, on nous disait il y en aura que pour 20 ans. Et puis il y a 40 ans, on nous disait il y en aura que pour 30 ans.
Et aujourd'hui, on nous dit il y en a pour combien de temps?
Les bons chiffres,
Nicolas,
je vais vous les donner.
Les bons chiffres,
c'est il y a 40 ans, il en restait 60 ans. Et aujourd'hui, il en reste 30 ans. Donc en gros, dans 40 ans, il en restera presque plus. C'est ça les bons chiffres.
Dans les années 70, je suis un petit peu plus vieux que vous. On disait, écoutez, en l'an 2000, il faudra trouver une solution. Et en l'an 2000, on est toujours il y a 30 ans. Donc, on est tous d'accord, les énergies fossiles, c'est pas bien, comme dirait l'autre. Hein, c'est comme la guerre. Faut les arrêter un jour ou l'autre. Mais prenons le temps et demandons aux ingénieurs de trouver une vraie solution. Le superéthanol en est une.
Nicolas Meillant.
C'est pas qu'il faut les arrêter. C'est-à-dire qu'on va avoir une contrainte sur la disponibilité de pétrole. Ok, la planète est ronde. Il y en a de plus en plus en Chine et en Inde qui en veulent. Donc, on va avoir une contrainte. Donc, il faut se passer de l'usage à peu près dont on peut le plus se passer. C'est lequel pour le pétrole? C'est pas forcément l'avion. Compliqué, l'avion électrique. C'est pas forcément le bateau. C'est pas forcément le camion. C'est en ville quand vous pouvez prendre un vélo, un scooter, un transport en commun, autre chose.
On est tous d'accord. Donc, pourquoi pas l'électrique? Pourquoi pas le superéthanol? Pourquoi pas plein d'autres solutions dont on va parler? Parce qu'elles existent. C'est illégal, mais ça existe. Alors, bon. Pierre est avec nous au 3216. Bonjour Pierre.
Bonjour Maïtena, bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous mettez dans votre voiture, Pierre?
Ah, moi, je mets du diesel parce que je fais beaucoup de kilomètres.
Vous êtes le méchant.
On est perdu, Maïtena.
Non, mais je sais, franchement.
On est complètement perdu parce que, déjà, moi, la priorité, c'est qu'évidemment, on est tous écolos. Mais je me demande vraiment si c'est vraiment nous, les particuliers, qui polluons plus que les usines. Moi, j'habite vers Lyon. Quand je vois à Fézin comment ça pollue les usines, je me demande si le fait, même tous ensemble, si on polluait moins en voiture, si ça changerait quelque chose. Bon, avec des gens de théorie, on n'avancerait pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on parle prix de l'essence, c'est le même pour l'essence que pour le diesel.
Vous avez vu, vous voyez la différence, vous, dans votre, quand vous faites le plein, là, Pierre, ces derniers temps?
Du tout. En fait, moi, j'ose même plus regarder.
Ah, vous regardez pas? Il a jamais été aussi haut depuis 4 ans, hein.
Et puis, ça continuera, le diesel, hein.
Et puis, ça va pas s'arrêter, oui, visiblement. Alors, on va faire un petit point, argent. Vous êtes d'accord, Pierre? On va savoir si ça va coûter plus cher. Yves Carra, vous dites que ça va pas s'arrêter. Pourquoi?
Oui, parce que le gouvernement a dit qu'ils allaient augmenter les taxes à hauteur de l'essence pour que le diesel rattrape le prix de l'essence. Et ils nous disent, attention, on vous rend service, hein. On vous rend service, comme ça, vous utiliserez moins le diesel. Moi, j'ai une autre théorie. Le diesel, ça coûte plus cher à l'achat. Ça coûte plus cher aujourd'hui à l'entretien, ça pollue donc plus en particules fines et en ox. Donc si on disait aux Français, vous savez, on va baisser le prix de l'essence, le diesel consomme un petit peu moins, mais l'essence sera un peu moins chère. Ouais. Donc votre intérêt, ce sera d'acheter de l'essence. Croyez-moi, notre sens civique et économique irait naturellement vers l'essence, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui avait déjà commencé en 2012. Donc faut pas nous dire, on augmente le diesel pour nous rendre service. Ça marche pas.
D'autant que, Pierre, je sais pas si vous avez vu passer cette information, le groupe Bosch travaille sur un filtre pour les voitures diesel qui, je les cite, diminue drastiquement les NOx, donc les fameuses émissions d'oxyde d'azote. Donc en fait, on fait tout pour que tout le monde continue de rouler au diesel. En fait, vous avez bien raison, Pierre. Continue.
Ah oui, mais et puis surtout, en fait, pour moi, en roulant en essence ou en diesel, quoi qu'il arrive, on pollue. Donc le vrai écart, c'est vraiment est-ce qu'on pollue vraiment beaucoup moins quand on roule en essence qu'en diesel. Moi personnellement, j'en suis pas sûr.
Bah, c'est prouvé quand même. Si, c'est
pas. Alors on produit mieux, pas de la même façon. On produit pas les mêmes choses.
On produit pas de la même manière. Mais enfin, on devrait vous inciter à pouvoir rouler à l'essence plutôt que de rouler au diesel et vous. Mais enfin, dans le choix, dans l'idéal, Pierre, est-ce que vous pourriez, vous envisageriez de passer à l'électrique?
Ouais, alors après oui, sauf que moi comme je fais beaucoup de kilomètres, c'est quand même prouvé qu'avec le diesel je fais quand même beaucoup plus de kilomètres qu'avec l'essence.
Oui.
Donc c'est vrai que je préfère m'arrêter à la pompe tous les 1000 kilomètres que tous les 750 quoi.
Vous faites combien de kilomètres par an, Pierre, à peu près?
50 000.
Ah bah oui, donc là le diesel, il n'y a pas photo, c'est le plus économique.
Alors j'ai une question pour vous, messieurs, parce que je me suis intéressée à la voiture électrique, moi, il y a un certain temps. Je pense que vous avez tous entendu parler de Coqueline Courrèges, qui était la femme de Monsieur Courrèges, le créateur. Elle a développé des voitures électriques avec laquelle elle a roulé pendant des années, alors qui étaient très lourdes, etc., mais qui avaient une autonomie gigantesque, absolument gigantesque. Donc il y a une possibilité, est-ce que vous avez entendu, vous, Nicolas Meillant, une possibilité de voiture électrique avec une autonomie bien plus large que celle d'aujourd'hui, puisque Pierre a raison, il peut
pas. Bien sûr. Alors aujourd'hui, ça existe déjà, en fait. Ça s'appelle un véhicule hybride rechargeable. Mm-hmm. Le principe, c'est que ça allie les deux. Donc vous avez une batterie qui vous permet de faire 50 km, et ça, vous faites tout votre trajet du quotidien en ville, comme ça vous polluez pas, parce que la pollution c'est un phénomène de concentration.
Enfin, vous polluez pas, c'est on va voir
vous
après.
Polluez
que
moins,
vous
polluez oui, moins. Vous polluez différemment, et, malheureusement.
Et quand vous partez en vacances, bah, vous avez votre moteur essence ou votre moteur diesel qui prend le relais, et comme ça, ça vous évite de construire une infrastructure de recharge extrêmement chère.
Parce que quand vous roulez sur l'essence, ça recharge la batterie alternative.
Non, ça roule à l'essence comme une voiture normale.
Oui,
il y a deux hybrides. L'hybride tout court, effectivement, c'est la voiture qui recharge, mais c'est pas très performant. L'hybride rechargeable, c'est comme une voiture électrique. Vous avez une prise et vous vous branchez.
Non, mais franchement, le temps qu'on vous écoute, on se dit, on veut acheter ça, quoi. Non, mais sérieusement.
Il faudrait. Le problème, c'est que ça coûte encore un peu cher. Et en fait, les batteries aujourd'hui, vous avez 20 à 30 km. Donc, ce qu'il faudrait, c'est des batteries un peu plus grosses. Comme ça, vous roulez plus à Paris. Mais ça va arriver demain. Pourquoi? Parce que en 2030, qui est à peu près demain, on pourra plus rouler ni au diesel ni à l'essence dans Paris. Donc, il faudra rouler en mode électrique. Et donc, ces voitures-là, forcément,
on pourra peut-être rouler au super-éthanol.
On pourra sans doute rouler au super-éthanol, voire au gaz aussi.
On va parler des solutions alternatives, parce qu'il y a, bien sûr, il y a les grandes villes, il y a les métropoles, etc. Mais il y a aussi la campagne et les provinces dans lesquelles on ne peut pas se passer de voiture. Ce n'est pas possible. Merci infiniment à vous, Pierre, d'avoir été avec nous au 32-16. Je vous souhaite une belle journée. Bon courage avec votre diesel et soyons à l'affût. La fin des énergies fossiles arrivera peut-être un jour.
RMC, 15h-16h, M comme Maïtena. RMC, M comme Maïtena.
Comment payer son essence vraiment moins cher? À Valence dans la Drôme, Michael a trouvé une solution surprenante, mais illégale.
Mets de l'huile.
L'huile de friture.
Un plein me revient à 0,01 euros par litre.
Sur l'île d'Oléron, le bus de la commune a une drôle d'odeur.
Ben ça sent l'huile de friture.
Eh oui, la voiture sent le graillon.
Ah oui, c'est vrai, ça sent la friture. Hein.
C'est quoi de faire le plein gratis?
C'est un peu jubilatoire quand même. Hein.
Maïtena Birabin.
Ben oui, si ça vous arrive à vous, si vous roulez à l'huile de friture, je vous en supplie, appelez-nous 3216. Nous sommes en train de discuter du prix du carburant qui n'a jamais été aussi haut depuis 4 ans et ça ne va pas s'arrêter, qu'on parle d'essence ou de diesel. Donc comment faire pour que rouler ne soit pas devenu un sport de luxe? Yves Cara est le porte-parole de l'Automobile Club Association avec nous. Nicolas Meillon est ingénieur conseil et il conseille donc dans le secteur de l'énergie et du transport. Yves Cara, ça coûte cher d'avoir une voiture aujourd'hui?
Ah oui, de plus en plus cher. On fait depuis 25 ans, on calcule le budget de l'automobiliste avec 5 voitures types, une Clio essence, Clio diesel pour comparer, 308 diesel, une Dacia Logan également et une hybride, et ça a jamais coûté aussi cher, notamment il faut le dire au sujet à cause des taxes, notamment sur le carburant, mais à cause de l'augmentation des pièces détachées des voitures, donc de l'assurance, et ça a augmenté surtout au-delà de l'inflation qui était de 1% en 2017, et on est à 3 ou 4% sur tout le reste, à part d'ailleurs sur le parking et le péage, faut le signaler, on est au-delà de l'inflation, donc ça coûte de plus en plus
c'est
cher.
6 000 euros à peu près pour une Clio, 8 500 pour une 308, 4 900 pour une Logan diesel, et pour une hybride, on est dans les 10 000 euros par an. Ouais. Avec les kilomètres parcourus aussi, pour ça intéresse.
Et surtout sur l'hybride, qui est une vraie bonne solution, l'État a supprimé le bonus qui était de 6 000 euros quand même, donc ça augmente le budget, c'est assez incompréhensible.
On nous dit make our planet great again, mais on nous aide pas beaucoup financièrement à le faire. Alors que, je le rappelle, le diesel, qui est toujours avec son avenir incertain, mais enfin, et continue d'être poussé à fond. On va parler des solutions alternatives. Si jamais vous roulez avec une solution alternative, appelez-nous. Karim est avec nous au 3216. Bonjour Karim.
Oui, bonjour.
Ça va?
Oui, très bien.
Vous vendez des voitures, vous?
Tout à fait. Alors moi, je suis vendeur chez Toyota.
Ça cartonne, vous en vendez tous les jours.
Eh oui. C'est l'alternative. Hein.
Mais c'est dingue.
C'est une alternative. Aujourd'hui, je vais sur une petite précision. On parle du diesel, on casse un peu le diesel par rapport aux émissions de particules.
Oui.
Il faut juste savoir que 80% des moteurs essence qui sont vendus maintenant rejettent des particules comme le diesel.
Non, mais toutes les voitures polluent, Karim, on est tous d'accord.
Oui,
les pollutions ne sont pas les mêmes, c'est simplement ça, et celle du diesel est particulièrement nocive. Voilà, c'est une réalité, je travaille pas au syndicat des initiatives de l'essence, ça m'est complètement égal, je vous assure.
Du coup, l'hybride Toyota, alors désolé, moi je suis chez Toyota, donc forcément...
Eh ben, profitez-en,
mais
si elle est bien.
Mais ça reste une voiture, ce qui est important déjà, c'est que c'est une voiture qui n'est pas plus chère à acheter. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes les rechargeables, tout le monde fait ça, tout le monde fait ci, mais vous avez des prix d'acquisition qui sont complètement incohérents. Il n'y a pas d'amortissement. Si on veut rouler différemment, ça peut être une solution.
Mais faites pas un argumentaire de vendeur, Karim. L'histoire? Pourquoi vous dites que c'est à l'achat, c'est le même prix? Parce que Yves Cara, il n'est pas d'accord avec vous.
C'est un peu cher l'hybride quand même.
Une Toyota Yaris hybride, c'est le même prix qu'une Volkswagen Polo boîte automatique. Voilà. qu'une Renault Clio automatique.
Ah, Yves Carrel, d'accord, du coup. Ouais.
Voilà. Ça dépend le modèle, ça dépend le modèle et les options et tout ça. C'est voilà.
Si on compare à équivalence, une boîte automatique, un moteur essence,
combien
c'est
ça coûte combien?
Bah, une Yaris hybride, ça vaut entre 18 et 20 000 euros, 22 000 euros.
Ah bah attends, après, Karim, ici la Pardon. Terre. Ouais. C'est hors de prix.
Hors de prix.
Bah je sais pas, c'est cher non? Ça coûte combien? Combien les gens mettent dans une voiture quand ils achètent une voiture?
Dans une voiture, je croyais que c'était c'est autour des 20 ou 25 000 euros. Mais vous savez quel est l'âge moyen d'un acheteur français d'une voiture neuve?
Bah, 55.
57.
Oui. C'est incroyable.
57 ans.
Oh, c'est fou. Donc tous ceux avant qui passent leur permis, etc. Ils achètent des voitures d'occasion.
Bah, voilà. Ils sont obligés d'acheter des voitures d'occasion. Évidemment. Oui, mais qui sont des voitures de 8 ans, 10 ans.
Bah, oui, oui. Bah, alors,
le parc français vieillit de plus en plus, mais c'est pour des raisons économiques. Évidemment.
Est-ce que Karim, est-ce que vous avez parfois des clients qui vous disent moi je roule avec une énergie alternative, avec un truc alternatif, je mets de l'huile de friture dans ma voiture, est-ce
non,
que ça vous arrive?
J'ai jamais rencontré personnellement.
Ouais, parce qu'ils n'osent pas vous le dire.
On a beaucoup de questions par rapport à l'E85.
Oui.
Mais nos voitures,
donc le fameux éthanol.
Voilà, sont pas adaptées. Mais sinon, j'ai jamais rencontré personnellement un client qui m'a dit qu'il mettait de l'huile de friture.
Attendez, vos voitures ne sont pas adaptées à l'éthanol?
Non.
Toutes les voitures ne sont pas adaptées à l'éthanol. Non, mais
il faut des boîtiers électroniques, mais il n'y a pas d'homologation de constructeur.
Si, à partir du 15 décembre, ça a été voté, c'est en cours, et fin juin, il y aura des homologations qui vont réglementer le marché.
Alors, je ne suis pas mécanicien dans l'âme, mais pour moi, il y a quand même des modifications techniques, et je ne pense pas que les constructeurs vont changer leur moteur pour une réglementation française.
Excusez-moi, une précision, effectivement, vous pouvez acheter une voiture qui peut supporter le 85 d'origine, mais si vous montez un boîtier qui est adapté à une voiture à essence uniquement et récente, il y a toute une liste. Il n'y a aucun problème.
Nicolas Meillan, moi je suis quand même très étonné de parce que j'entends quand même le on n'avance pas, enfin on va pas vers la modernité, on ne va pas vers autre chose, on n'avance pas, on piétine complètement cette histoire.
Hybride, bon, quand même deux mots sur l'hybride. En ville, c'est quand même pas mal comme solution. Le problème, c'est quand on sort de la ville, parce que ça consomme beaucoup, la voiture est un peu plus lourde.
L'hybride, c'est bien si on a les moyens. Enfin,
Il y a deux solutions qui vont intéresser nos auditeurs. La première, c'est 90% des gens qui vont au travail sont tout seuls dans leur voiture.
Ouais.
Donc le truc, si on veut gagner de l'argent, c'est de faire du covoiturage. Mm-hmm. C'est de prendre quelqu'un avec qui on travaille.
Ça, avec le prix de l'essence, c'est sûr.
Et là, vous divisez déjà le coût par deux. Donc ça, c'est quand même une solution qui est implémentable demain, qui coûte rien, et tout le monde peut gagner.
Une vieille solution, hein.
C'est l'autostop numérisé.
On revient, exactement, et on a une mise en relation. Ouais, c'est super. La deuxième solution aussi, quand on habite en ville, c'est de louer sa voiture à son voisin. Et là, on peut aussi gagner de l'argent et continuer à rouler avec sa voiture diesel en dehors des villes, et puis alternative. Donc ça, c'est deux choses qui sont importantes. Effectivement, ça coûte de plus en plus cher la voiture, et ça va continuer.
Vous dites à vos clients de se lancer dans ces business-là, par exemple, les plateformes de location de voitures entre particuliers, puisque vous faites du conseil. Si quelqu'un vient vous voir en vous disant je veux faire ça, allez-y.
Moi je dis pas ça qu'aux clients, je dis surtout ça aux collectivités aussi, et aux gens qui décident. Aujourd'hui, quand vous êtes à Paris, au lieu de mettre 60 milliards d'euros pour aller créer un train, le Grand Paris qui va faire un report modal très très faible. C'est-à-dire que les gens vont pas prendre leur voiture, mais vont prendre leur train. Donc la part des gens qui vont prendre leur voiture va diminuer, mais c'est extrêmement faible pour 60 milliards d'euros.
Oui.
Bah, vous faites mieux d'offrir à tout le monde le covoiturage. Et là, quand vous remplacez... Aujourd'hui, il y a une personne par voiture quand vous allez au travail. Si vous passez de 1 à 1,5, vous supprimez l'intégralité des bouchons pour 0 euros, 0 centime. Donc ça coûte... Les solutions gratuites, c'est bien.
Grève de la SNCF, j'ai discuté avec Mazella, qui est le créateur et PDG de Blablacar. Ils ont multiplié par 10 le Blabla Lines, les courts voiturages. Donc c'est... Vous voyez, il y a des solutions.
Ça, c'est une vraie solution.
Ouais, espérons que ça perdure. Hein.
C'est pas qu'on doit plus utiliser sa voiture, c'est qu'on doit mieux l'utiliser.
Un peu moins de voitures, mais mieux de voitures.
Pour mieux l'utiliser, et Karim, restez avec nous, je pense que ça peut vous intéresser. Il y a déjà des alternatives qui existent. On peut rouler au colza, on peut rouler aux dérivés de canne à sucre, de betterave, de céréales, de maïs, de tournesol, d'arachide, de palme, de soja. C'est quoi le problème avec ces carburants? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas dans toutes les pompes à essence partout là?
Voilà, très bonne question. Alors pour revenir au super éthanol, excusez-moi, je suis pas payé par la SNCF. Je suis sûr qu'ils écoutent là. Je les ai rencontrés, on a discuté,
super
et ça
éthanol.
Fait vraiment partie des vraies solutions. Il y a 1000 pompes en France qui sont équipé de 85. Donc ce que vous disiez,
c'est autorisé pour le coup. Les autres, tous ceux que j'ai cités ne sont pas autorisés.
Voilà. Et ces solutions alternatives, effectivement, sont pas organisées. Elles sont même interdites certains cas.
L'éthanol, c'est quoi?
L'éthanol, c'est produit par la betterave ou par le maïs ou par une autre céréale. Et donc,
l'arachide, le tournesol, la palme, le soja, tout ça, c'est de l'éthanol.
Voilà. Tout ça, d'accord. On peut le produire à base de produits que l'on cultive et on rajoute E85 15% d'essence. Voilà,
d'accord.
Pour permettre le.
C'est pas très logique. E85, ça fait 15%. 15%. Quand je vous écoute.
Bah, si, 85% d'éthanol, 15% d'essence.
Ah, voilà. Oui, d'accord.
Ah, bah, non, mais il faut savoir calculer, Maïtena.
Voilà. Dis donc, c'est ça. Je vais vous mettre un hashtag, vous allez voir, ça va pas traîner. Dites-moi, quand on entendait tout à l'heure dans le générique que certains roulent à l'huile de friture, ça fonctionne ou pas?
Bah, ça fonctionne. Alors, je sais pas si tous les moteurs acceptent et si sur la longueur ils sont pas abîmés. Ça, je suis pas spécialiste. Hein, il faudrait voir. Mais on parle de l'huile de Léron. Moi, j'ai une maison à l'huile de Léron. Ça fonctionne très très bien. Effectivement, il est très connu. Ce
ça pollue l'huile de friture ou pas, Nicolas Meillon?
Bah, forcément, c'est pas les mêmes. Les carburants aujourd'hui sont traités pour qu'il y ait moins de pollution, donc ça va polluer.
Vous voulez dire que l'huile de friture, elle pollue plus que le diesel?
C'est probable en termes de particules, etc. Il y a des chances. Mais vous savez, la pollution, c'est un problème en ville. Donc l'huile de friture, je pense qu'elle n'est pas beaucoup utilisée en ville, c'est plutôt à la campagne. Et à la campagne, la pollution, c'est pas un sujet.
La pollution, c'est la concentration. Si on la dilue, il y a plus de que.
Si on se fait arrêter, oui. Le problème, c'est qu'on est. Vous avez remarqué, de plus en plus nombreux sur cette planète, de plus en plus nombreux sur cette planète à avoir ou à vouloir une voiture.
Et donc, surtout au même endroit.
Ça va pas. Bon, si on se fait gauler avec une huile de friture dans sa voiture, qu'est-ce qui nous arrive?
Alors exactement, je ne sais pas, c'est une bonne question, faudrait que je me pense là-dessus, parce qu'on n'a jamais eu d'adhérents donc à l'Automobile Club Association,
Thomas,
on
attendez,
a 1 200 000, mais on n'a jamais eu la question.
Je crois que mon réalisateur roule à l'huile de friture, tu roules à l'huile de friture, réponds dans les ordres, réponds dans les... Hein, 150 euros, bon, on t'entend là quand tu me réponds dans les ordres? Bah vas-y, parle tout fort. T'as eu une amende de 150 euros, bah bravo mon garçon, ouais. Fantastique. Est-ce que ça vous semble viable, Nicolas Meillon, ces solutions, est-ce qu'on peut les développer ou pas?
Non, moi je pense que en fait je suis pas payé par les gens de le 85, donc j'ai peut-être pas la même position.
Moi non plus.
En fait c'est pas pour moi c'est pas un problème de carburant. Pour moi c'est un problème de en fait en ville où quand on peut passer de sa voiture on l'utilise pas ou l'utilise mieux et quand on n'est pas en ville on prend son diesel son essence ça me pose pas de problème.
Excusez-moi, je pense que c'est un problème de carburant avec le message que je viens de recevoir. Attention. Les lunettes. Non mais c'est un truc, j'ai jamais vu ça. D'ailleurs, s'il vous plaît, si ça vous arrive, Karim, accrochez-vous bien. Ouais. C'est Master Docteur un docteur qui nous envoie ce message. Salut, ma Renault 21 diesel roule grâce à la modification faite par un de mes amis sur mon moteur. Elle roule à l'eau.
Oui.
La pièce qu'il a ajoutée m'a coûté 10 euros. S'il n'y avait pas les lobbies du pétrole, nous ferions tous comme moi. Comment ça vous dites oui, Yves Cara?
Oui, parce que sur les réseaux sociaux, effectivement, on peut voir effectivement qu'il y a quelqu'un qui fait une vidéo et qui a une voiture qui fonctionne à l'eau. Alors, techniquement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air vrai et ça fait quelques années que ça dure. Par contre, je peux pas vous en dire plus, mais c'est une information qu'on connaît.
S'il vous plaît, si tu roules à l'eau, appelle-moi vraiment. Elle est énorme, cette info. J'en ai jamais entendu parler. Vous en avez entendu parler, Nicolas Meillon?
Oui, mais il y a des choses qui circulent comme ça, mais malheureusement, la physique et la chimie vous dit que c'est un peu compliqué.
Et qu'il y a pas beaucoup d'énergie. Il est à l'Automobile Club. Il vient de vous dire que ça marche.
Non, j'ai pas dit que ça marchait. J'ai dit que cette information, effectivement, ça fait un moment qu'elle court, qu'elle a jamais vraiment été démentie, qu'on n'a jamais été vraiment plus loin, mais il y avait des voitures à air comprimé aussi qui étaient en projet, qui n'ont jamais vu l'eau.
Moi, j'aimerais beaucoup en conduire une.
Karim, vous rouleriez à l'eau si vous pouviez?
Mais tout le monde roulerait à l'eau.
Pourquoi pas? Ça serait pas mal. Après, on paierait le litre d'eau à 1,50€.
Non, mais on n'est pas obligé de mettre de l'eau potable. Et puis il faut en garder un peu aussi pour le mettre dans l'apéro.
Je vais quand même vous rappeler quelque chose, et ça, les gens ne le savent pas, mais le pétrole, ça coûte moins cher que votre bouteille d'eau. Hein. Donc, en fait, si vous roulez demain à l'eau, ça nous coûterait plus cher.
Sauf si c'est de l'eau de mer, ce serait pas mal.
Merci beaucoup, Karim, avec un demandé pas tant. Dites donc, elle est bourrée de pétrole, celle-là, l'eau de mer. Merci beaucoup, Karim, d'avoir été avec nous au 3216. S'il vous plaît, appelez-moi si jamais vous roulez à l'eau ou à autre chose, ou que vous mettez l'huile de friture, etc., pour nous raconter l'état de votre voiture, savoir si ça fonctionne ou pas, si vous avez essayé, si vous avez été déçu. À tout de suite.
RMC, 15h-16h, M comme Maïtena. RMC jusqu'à 16h, M comme Maïtena, Maïtena Birabin.
Je suis avec le porte-parole de l'Automobile Club Association Yves Cara, avec un ingénieur conseil dans les secteurs de l'énergie et du transport, Nicolas Meillon. Nous parlons de la hausse du prix de l'essence, du carburant d'ailleurs, tout court, essence ou diesel, qui n'a jamais été aussi haut depuis 4 ans. Et ça va continuer parce que les taxes sont là, ça va continuer parce que la géopolitique fait que les prix ne vont pas diminuer, vont plutôt augmenter. Et puis on s'interroge évidemment sur cette histoire d'autres carburants qui n'arrivent jamais. On continue d'essayer d'améliorer le diesel avec des filtres qui font qu'on pollue un peu moins. On continue d'utiliser le pétrole à tout va, alors qu'il y a d'autres solutions. Et Yves Cara a plongé dans ses souvenirs, ses souvenirs de sa folle jeunesse, où quand il avait 18 ans, vous étiez au...
à l'armée.
Service militaire.
Service militaire à l'armée dans les transmissions dans la radio déjà, vous voyez.
Et donc vous avez fait votre permis poids lourd.
Ouais, j'ai passé mon permis poids lourd et on évoquait ça justement pendant la pause. C'était des diesels, donc on avait une énorme manette sur le tableau de bord, c'était alors un camion qui s'appelait le Chat. C'est un chat et on avait diesel et si jamais en temps de guerre, on n'avait pas de diesel, vous avez cette grosse manette, vous la tournez, c'était autre.
Et donc autre, c'est diesel ou autre.
Autre et vous mettiez ce qui avait un pouvoir explosif, ça pouvait être de l'alcool, ça pouvait être de l'huile, un mélange, ça pouvait être même de l'eau dedans si c'était ici, il y avait quand même un peu un élément qui était explosif.
Donc, et vous pouvez rajouter un liquide n'importe lequel
qui avait un pouvoir explosif quand même, on pouvait pas mettre de l'eau.
Mais dans un produit, donc on pourrait se passer de licence depuis votre service militaire,
ça fait une bonne trentaine d'années voire plus, 35 ans.
Je vous assure, ça m'agace ce sujet, m'agace.
Mais faut pas
le faire tout le temps quand même.
Pourquoi faut pas le faire tout le temps?
Ça abîme le moteur.
Oui, non, mais sur ces gros moteurs qui sont diesel, qui étaient énormes, effectivement, on pouvait pas rouler à 100 km/h, mais on pouvait se déplacer. Alors, on pourrait, mais c'est vrai, il y a des solutions alternatives. On imagine que, non, mais il faut pas, Maïtena, faut pas rêver aussi. Si on augmente les taxes, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le diesel, c'est pour aller chercher l'argent où il est, c'est-à-dire dans la poche de tous les Français, parce qu'on est tous automobilistes, directement ou indirectement. Au bout d'un moment, on prend un taxi, on est automobiliste, d'accord? Ou on est en scooter ou en deux roues ou autre. Donc voilà, mais je vous jure, si le but c'était vraiment de diminuer le diesel, diminuer le prix de l'essence, on achètera de l'essence naturellement et on se passera du diesel au fur et à mesure, si vraiment c'est le but. Mais je crois qu'il faut pas être naïf non plus.
Ouais, il faut aussi se rappeler quand même que c'est 80% de notre balance commerciale, de notre facture énergétique. Le pétrole, on en a pas. Et je rappelle quand même, pour moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée.
Ça serait parfait pour nous.
C'est plutôt une bonne chose d'augmenter le prix parce que je vous dis, quand nous, on donne quand même à peu près 10 milliards d'euros à l'Arabie Saoudite pour s'acheter du pétrole tous les ans.
Mais pardon, Nicolas Billon, je vous suis pas. On serait ravis d'arrêter de payer cette facture-là. On n'achèterait plus de pétrole, on achèterait autre chose.
Non, parce que la facture, on la paye à l'État, on la paye pas à l'Arabie Saoudite. Quand l'État augmente les taxes, ça fait que nous, on va acheter moins de pétrole. Donc c'est une bonne chose. Comme ça, on va moins en acheter aux autres pays. Et donc, je rappelle aux auditeurs qu'aujourd'hui, on finance directement le terrorisme. Puisque avec les 10 milliards d'euros qu'on donne à l'Arabie Saoudite, il y en a une partie qui va pour financer le salafisme à travers le monde.
Vous êtes en train de dire aux gens là dès qu'ils prennent leur voiture qu'ils sont complices du terrorisme, vous allez vous faire des potes.
Si vous voulez vous battre un peu contre le terrorisme à votre niveau, de temps en temps prenez votre vélo.
Ouais. Voilà. Vous le faites vous?
Moi je le fais. Moi je prends le train et le vélo effectivement. Ouais. Ma voiture je le prends que quand j'en ai besoin, c'est-à-dire pour partir en vacances.
Il est à contre-courant et assez courageux votre discours. Vous le tenez à vos clients, Nicolas Meillant?
Je le tiens dès que je peux à qui veut bien entendre, donc quand je fais des conférences, parce que c'est un vrai sujet, je vous dis, c'est deux sujets aujourd'hui, et donc on peut contribuer à notre façon, et c'est un vrai débat. On se souvient de la phrase dans les années 70, la France, on n'a pas de pétrole, on a des idées, donc effectivement on a des idées, et il faut qu'on les mette en application. Si vous expliquez aux gens pas l'histoire du pétrole, mais l'histoire du terrorisme, tout de suite, ils vont être beaucoup plus sensibles.
Comment vous entendez ça, Yves Carra, vous, l'Automobile Club?
J'entends qu'au niveau électrique, on a un petit peu la même chose, alors pas au niveau du terrorisme, mais les Chinois, aujourd'hui, pour produire des batteries, il faut des terres rares. Les terres rares, il faut aller les chercher, il faut donc polluer la planète, il faut creuser des galeries. Et les Chinois ont la majorité des terres rares, et quand ils les ont pas, ils vont prendre possession des mines en Afrique ou autre. Il y a une vraie guerre économique.
Pour éclairer ceux qui nous écoutent, les Chinois, effectivement, rachètent partout dans le monde des territoires, donc ils les rachètent, donc ils empêchent les gens de cultiver dessus, ce qui crée forcément de la sous-nutrition, de la malnutrition, voire de la faim tout court, pour produire les choses qui vont être servies,
pour fabriquer des batteries. Donc aujourd'hui, 90% des composants des batteries sont produits par les Chinois. Donc si on est dépendant d'un côté du pétrole pour d'autres raisons et de l'autre côté pour les terres rares, je veux dire, ça résoudra pas le problème avec l'électrique.
Je précise quand même, je redis à ceux qui nous écoutent que vous êtes l'Automobile Club et que vous êtes ingénieur conseil dans un gros cabinet. C'est pas deux affreux gauchistes avec des dreads, non, c'est pas ça, c'est pas eux qui vous racontent ça là. Non, mais je le précise parce que d'habitude c'est toujours porté par effectivement des gauchos alter bobos, je sais pas quoi.
Non mais c'est une réalité, je veux dire, ce que disait Nicolas et ce que je dis là, je n'invente pas, on peut effectivement le voir partout. Il y a une vraie guerre économique entre parenthèses. Si on est un jour dépendant de l'électrique uniquement, on sera dépendant à moins que effectivement on voit différemment et on produise différemment,
si vous voulez. Oui, mais le vrai problème c'est quand
le gaz, c'est pareil pour la Russie.
À chaque problème qui va concerner la transition énergétique, on va toujours raisonner à changer l'offre. C'est-à-dire, on va pas faire du nucléaire, on va faire du renouvelable, on va pas faire de la voiture machin, on va faire de la voiture truc. En fait, le vrai sujet, c'est pas l'offre, c'est la demande. C'est comment on s'en passe.
Ouais.
Le plus possible. Et quand on s'en passe pas, ben on réutilisera ce qu'on a. Et donc il faut partir de la demande. Comment est-ce que je fais pour pas utiliser ma voiture ou moins l'utiliser, mieux l'utiliser, je la remplis, ouais, etc. Il faut arrêter à chaque fois de trouver la voiture électrique. On va changer le problème du pétrole à la Chine. Effectivement, demain, si on veut une voiture électrique, elle sera chinoise. On l'achètera en Chine.
Alors,
et ça, on l'a pas anticipé. Donc effectivement, c'est pas très malin.
Julien, vous l'avez acheté en Chine, votre voiture électrique?
Bonjour, Maïté.
Bonjour.
Non, c'est une Renault,
ah, la Renault Zoé, dont la batterie est fabriquée en Corée du Sud.
Ah, bah voilà.
Bah, c'est pas la Chine. Okay. Nicolas, voilà. Soyez sympa, quoi.
Oui, c'est vrai, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer.
Bon, Julien, vous êtes passé quand à l'électrique, vous?
3 ans. Il y a 3 ans, j'ai fait le tour de ce qui existait. C'est vrai que j'étais très séduit pour pas faire de pub par la Zoé pour des tas de raisons.
Oui.
Et en fait, c'est ma deuxième voiture, hein.
Voilà, j'avais posé la question.
Je peux parler de l'électrique en termes de, j'ai envie de motiver les gens qui sont dans mon profil parce que les gens qui ont qu'une voiture et qui habitent en appartement, je pense que c'est compliqué.
Oui.
Et vous avez une maison individuelle, non?
Et moi, j'ai une maison individuelle, voilà. Et
pour la recharge.
Une voiture thermique.
Comme tous les gens qui achètent une voiture électrique.
Déjà, les gens qui étaient dans mon profil pensaient à la voiture électrique.
Bien sûr.
Voilà.
Et vous avez les moyens parce que ça quand même coûte cher pour une seconde voiture électrique.
J'ai choisi la location parce que ça me coûte, j'ai l'impression que ça coûte quand même vachement moins cher.
Pardon, Julien, parce que Nicolas Mélian dit, je décrit très justement, vous racontez très bien, il faut avoir une maison, il faut que ce soit la deuxième seconde voiture, voilà. Mais énormément de Français ont 2 voitures. Énormément.
Oui, non, mais bien sûr que les gens ont 2 voitures, mais le problème c'est pas d'avoir 2 voitures. Le problème c'est que la seconde voiture, généralement, c'est une voiture d'occasion pas chère. Là, quand faut prendre une voiture électrique, c'est un peu plus cher.
Elle vous coûte combien par mois, Julien, sans indiscrétion, cette voiture?
Moi, j'ai fait le choix de pas changer ma voiture thermique parce que je la garde longtemps, et d'avoir une deuxième petite voiture performante, moderne et écologique. Donc ça, c'est un choix financier.
Oui.
J'ai mis l'argent plutôt dans la deuxième voiture. Voilà, et on s'en sert énormément. C'est un plaisir de conduite. Il y a des a priori que je voudrais lever. Un, c'est un plaisir de conduite inégalable. C'est vraiment génial.
Ça
a une puissance. Les gens disent, on habite en montagne, je suis dans la région grenobloise. Les gens disent, mais ça va en montagne? Non, mais ça a une puissance. Je dépose tout le monde.
Oui, mais plus elle est puissante, plus vous utilisez la puissance, moins vous avez d'autonomie.
Ouais, mais l'autonomie, j'ai 300 km, j'en ai largement. Ça se charge assez vite parce qu'on se met des bornes, qu'on paye des bornes à charge moyenne rapide, hein. On met 2-3 heures à charger sa voiture et pas toute la nuit.
Entièrement. Il vous faut 2-3 heures pour recharger 300 km d'autonomie.
J'ai acheté une borne, hein. J'ai pris des bornes.
Julien, vous la payez combien par mois, votre voiture?
Moi, j'ai pris un forfait à 15 000 km, donc faut toujours voir ça. Hein. Moi, j'ai pris un forfait à 15 000 km, je paye 300 euros par mois.
Et l'électricité, elle a augmenté de combien
chez
vous?
1 euro tous les 100 km.
1 euro tous les 100 km, donc vous la rechargez 300 km, vous mettez 3 euros par 300 km.
Voilà, 3 euros par... Après, j'ai plus de révision, il n'y a pas de mécanique, il n'y a rien, c'est terminé.
Et le bidule que vous avez acheté pour faire pour recharger chez vous
ça,
tout seul?
J'ai payé 1 000 euros fourniture pause, ça payé il y a 3 ans, donc ça va me durer la vie, et il y a 300 euros déductibles de l'État.
Donc vous y avez gagné, vous diriez, au bout de 2 ans? Depuis 3 ans, pardon.
Pour l'instant, à court terme, je suis gagnant. Après, si j'avais acheté une voiture, j'avais gagné 10 ans. C'est toujours un calcul, il y a un pari. Hein.
Bien sûr.
Quand on achète une voiture,
c'est toujours... Donc on fait des paris. Hein. Moi, j'ai parié que j'allais garder longtemps ma thermique à l'entretenir et que je voulais avoir une Renault Zoé que j'ai bien changée parce que j'avais le premier modèle et j'ai fini mon contrat. J'ai pris la nouvelle à 300 km. Ils disent 400, mais c'est 300. Hein. C'est 300 km parce que c'est trop le froid. Mais c'est génial. Hein. Il y a qu'un problème qu'il faut dire vraiment, c'est que il y a 30 000 bornes de charge en France.
Un peu moins,
mais c'est le bazar complet.
Ouais.
Parce que je trouve ça complètement nul. Ça, c'est le seul truc négatif de la voiture électrique.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas une borne qui a les mêmes règles d'utilisation.
Donc c'est n'importe quoi.
Voilà. Un coup, on peut mettre la carte bleue, c'est royal. Un coup, faut avoir la carte Carrefour Leclerc. Un coup, c'est fermé. Donc ça, par contre, pour le coup, j'ai envie de dire que moi qui me suis un peu déplacé, un peu joué, je trouve que c'est stressant parce que on me dit que mon application me dit que j'ai 5 bornes autour de moi et il y en a éventuellement une qui va être là. Voilà. Alors que quand on a une station essence, on n'a pas stress, on en voit
partout. Julien, est-ce que votre thermique, vous pourriez la passer à l'éthanol?
Est-ce que quoi?
Votre thermique, vous pourriez la passer à l'éthanol?
Ah ben moi, tout ce qui pourrait faire moins de bruit, moins de pollution, je suis client.
Hein. C'est un diesel?
Un diesel.
Alors non.
De 2013.
Alors non, c'est que l'essence.
Et à l'eau, vous aimeriez la passer à l'eau? Il paraît qu'il y a un mode d'emploi sur Internet.
Mais moi, je prends tout ce qui est. La voiture, c'est indispensable de l'homme moderne, mais
Mais des fois, je ferme les yeux et je les rouvre en imaginant toutes les villes. Vous, à Paris, là, quand je vais des fois chez vous à Paris, je me dis, mais faut arrêter la voiture, c'est la folie, quoi. C'est n'importe quoi. On a une ville, on a Paris, c'est extraordinaire. Et quand je déambule comme ça en tant que premier assage, je dis, mais c'est fou, quoi.
Ouais.
C'est fou d'entendre autant de bruit, parce qu'on parle de la Zoé, il faut parler de la pollution sonore. Parce
bien
que
sûr,
c'est vrai que ça pollue la batterie, on sait, la fabrication.
Mais d'ailleurs,
Les motos, faut qu'on arrête. Il y en a partout.
Merci infiniment, Julien, d'avoir été avec nous. Vraiment, c'est super témoignage. Pour conclure, Nicolas Meillan, vous avez 20 secondes.
Non, mais c'est le sens de l'histoire. De toute façon, les voitures individuelles vont se faire sortir des villes. C'est déjà le cas à Oxford dans 2-3 ans. Et ce sera le cas dans toutes les villes parce que, tout simplement, on n'en a pas besoin, mais on pourra partir en vacances avec.
Merci beaucoup, Yves Carra, d'avoir été avec nous. So long sur les routes. Merci, Nicolas Meillan, d'être passé par là. On va retrouver dans un instant le patron de Sérimania, le festival consacré aux séries qui commence aujourd'hui à Lille. Rodolphe Belmer, tout de suite sur RMC.